Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Du grain à moudre d'été, ce soir, se dirige-t-on vers un réarmement nucléaire général ? C'est un tournant, une rupture même pour certains. Un traité de désarmement nucléaire va devenir caduc demain. Le traité FNI pour force nucléaire à portée intermédiaire. Un texte signé entre les États-Unis et la Russie en 1987. Il avait alors pour objectif l'élimination d'une catégorie d'armes, certains missiles. Ce sont les Américains qui ont mis fin à ce traité de manière unilatérale, accusant les Russes de ne pas l'avoir respecté. Une décision qui intervient dans un contexte international particulièrement tendu. La Corée du Nord vient de dévoiler un sous-marin qui pourrait être équipé de têtes nucléaires. L'Inde et le Pakistan, deux des neuf puissances nucléaires, entretiennent des relations de plus en plus tendues. Et l'Iran menace de reprendre son programme nucléaire militaire. Tout cela alors qu'un autre traité bilatéral, START 3, arrive à échéance dans 2 ans, sans que les discussions pour un éventuel renouvellement n'aient encore commencé. D'où cette question, se dirige-t-on vers un réarmement nucléaire général ? Pour en parler, 4 invités. François Hesbourg, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller spécial à l'ISS, l'Institut international d'études stratégiques, et à la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller spécial du président de la FRS précisément. Antoine Bondaz, bonsoir.
Bonsoir.
Vous travaillez également pour la Fondation de la recherche pour la recherche stratégique. Vous y êtes chargé de recherche. En duplex de Reims, Benoît Pelopidas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes titulaire de la chaire d'excellence en études de sécurité à Sciences Po. Vous êtes le fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires. Parmi vos ouvrages, Guerre et conflits armés au XXIe siècle, un livre coécrit avec Frédéric Ramel et publié par les presses de Sciences Po. Et puis par Skype, Jean-Marie Collin, bonsoir. Jean-Marie Collin, est-ce que vous nous entendez ? Vous êtes loin, Jean-Marie Collin, que nous allons retrouver dans quelques instants. Vous êtes chercheur associé auprès du GRIP, le groupe de recherche et d'information pour la paix et la sécurité. Vous militez, vous, pour l'interdiction des armes nucléaires. Vous êtes le porte-parole de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Vous êtes l'auteur aussi de L'illusion nucléaire, la face cachée de la bombe atomique. C'est aux éditions Charles-Léopold Mayer.
Depuis des années, la Russie viole les termes du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, sans remords. Cette violation met des millions d'Européens et d'Américains en grand danger, avec pour but de mettre les États-Unis en désavantage militaire. Et cela sape les chances d'avancer dans notre relation bilatérale. C'est notre devoir de répondre de manière appropriée. Les États-Unis vont donc suspendre leur participation au traité ce 2 février.
Une des parties n'a pas adhéré au traité. Nous y avons adhéré, mais pas l'autre partie. Alors à moins qu'elle ne se décide à adhérer, nous ne devrions pas être les seuls à le faire. J'espère que nous allons tous nous réunir dans une grande et belle pièce et rédiger un nouveau traité qui sera bien meilleur. Mais à moins d'arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, nous ne pouvons pas être désavantagés par un traité qui limite nos possibilités d'action, alors que l'autre partie n'y sera, elle, pas soumise.
Donald Trump et avant lui Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, qui annonçait en février officiellement le retrait unilatéral des États-Unis, retrait de ce traité FNI, un traité qui, j'ai oublié de le préciser en introduction, proposait une innovation radicale dans l'univers de ces traités de désarmement, à savoir l'abolition d'une classe entière de systèmes d'armes, un traité qui est donc mort et enterré. Nous allons analyser et débattre de cette décision américaine, puis envisager ses conséquences et ce qu'elle dit aussi de la doctrine de dissuasion nucléaire. Nous nous interrogerons aussi dans cette émission sur l'avenir des autres traités internationaux sur l'armement nucléaire. Avant cela, retour donc au retrait américain du FNI, du traité FNI. Qu'est-ce que cela représente, François Hesbourg, dans l'histoire du désarmement nucléaire ?
C'est un vrai point tournant, hein, vous l'avez dit dans votre lancement, mais c'est exact. Et j'ajouterais que c'est d'autant plus important que, comme dans tous les bons divorces, c'est totalement mutuel. C'est-à-dire la Russie a saisi la perche tendue par les États-Unis pour, elle aussi, se retirer du traité.
Au début du mois.
Oui. On n'est pas du tout dans la logique, par exemple, de l'affaire iranienne, où lorsque les Américains se retirent du traité, les autres signataires essayent de sauver le traité. Le président Poutine avait déjà indiqué, dès 2007, combien il était peu satisfait de ce traité. Donc, ce qui rend cette affaire encore plus grave, c'est précisément qu'il y a un accord entre les États-Unis et la Russie pour se débarrasser de ce traité. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Américains et les Russes sont dorénavant libres pour déployer des missiles dits à portée intermédiaire sur le territoire européen de la Russie, c'est la Russie tout entière d'ailleurs, et en Europe, s'agissant des États-Unis. Et ça veut dire surtout, et c'est là où se fait les liens par rapport au traité sur les armements stratégiques, New Start, Start 3, comme on dit parfois, et à savoir que tous les mécanismes d'inspection, de contrôle, de connaissance de l'arsenal de l'adversaire, tout cela disparaît. Et donc, moins de confiance, moins de connaissance, davantage d'instabilité.
Benoît Pelopidas.
Oui, moi, sur cette question, je voudrais juste insister sur le fait qu'on traite trop souvent la fin du traité FNI comme la cause ou le déclencheur de la course aux armements qui va venir. Et ce qu'il faut bien observer pour compléter ce qui a été dit, c'est que les deux parties n'étaient pas satisfaits de ce traité, et même du côté américain, on s'est engagé dans la modernisation des trois composantes de l'arsenal nucléaire dans un message au Sénat du président Obama dès février 2011, c'est-à-dire bien avant la Crimée, bien avant la détérioration de des relations avec la Russie. Et donc, ce tournant, en fait, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, est simplement une espèce d'effet de continuation de cette tendance-là. Ce que ça montre, si vous voulez, par rapport à la tendance qu'on a à dire, voilà, ces traités sont simplement le reflet d'éléments structurels des rapports de force internationaux, c'est que ça nous rappelle ce que la recherche a montré depuis longtemps, c'est-à-dire le rôle des déterminants domestiques ou interne des politiques d'armement. Donc, pour me résumer, c'est l'idée que la fin du traité FNI, c'est vraiment non pas le début et le déclencheur d'une course aux armements, mais plutôt l'effet et la conclusion d'une tendance qui était plus longue.
Antoine Bournaz.
Alors, un impact aussi important de la décision américaine, elle a été prise vis-à-vis de la Chine. Et la Chine est mentionnée dans les prises de position américaines, l'argument étant que le traité FNI était un traité évidemment bilatéral initialement entre les États-Unis et l'Union soviétique, et donc que la Chine n'était pas couverte. Or, le principal problème aujourd'hui pour les Américains, c'est que depuis décembre 2017, la Chine est considérée comme un compétiteur stratégique, que les Américains officiellement, désormais, et de façon de plus en plus ouverte, s'inquiètent de ce qui est considéré ou présenté comme une menace chinoise, et que la Chine, justement sur la question balistique, et justement dans cet éventail du traité FNI, est la puissance balistique qui aujourd'hui est non seulement la plus dynamique, mais qui a aussi l'arsenal le plus diversifié.
Avant de redonner la parole à François Hesbourg, je voudrais vous entendre, Jean-Marie Collin. On vous a retrouvé par téléphone. Comment qualifiez-vous cette décision américaine, ce retrait américain du traité FNI ?
Écoutez, c'est très triste, puisque c'est la mort d'un traité de contrôle et de désarmement qui avait été créé dans une période justement pour éliminer une catégorie complète d'armes nucléaires et conventionnelles qui ont permis d'enclencher de futures négociations et de créer une sorte de paix mondiale ou en tout cas d'engager un processus pour le désarmement international. Donc c'est un extrêmement mauvais coup qui est donné à la machinerie globale du désarmement international. Donc dans ce sens-là, et comme le disait Benoît Pelopidas, c'est vrai que cette problématique remonte déjà à plusieurs années et que tous ces États, la France y compris, sont engagés dans une course à la modernisation de leurs arsenaux nucléaires.
On va y revenir. François Hesbourg.
Oui, je crois qu'il faut faire attention aux mots que l'on emploie. Si l'on parle de réarmement général, ce n'est pas le cas. Et si on parle de course aux armements quantitatives, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire le nombre de charges nucléaires dans le monde diminue année après année par rapport à ce qu'elle a été pendant la guerre froide.
Pour avoir une idée, quelques chiffres, François Hesbourg.
Écoutez, à la fin de la guerre froide, on était aux alentours entre 60 000 et 70 000 ogives nucléaires dans le monde. Aujourd'hui,
un peu moins de 14
000. Voilà. Donc on voit qu'effectivement, on n'est pas tout à fait dans une logique d'accumulation des armements. Mais mon but n'est pas de vous rassurer. Le problème, ce n'est pas la quantité des armements, c'est la nature des armements, et la conséquence de leur modernisation sur la stabilité mondiale. Et alors ça se passe par deux biais. Un biais, c'est bien entendu la prolifération des armes nucléaires, les inquiétudes qu'on en a pu avoir avec l'Iran et qui ont conduit au fameux traité avec l'Iran, les inquiétudes que nous avons sur la Corée du Nord. Mais l'autre et plus importante inquiétude, c'est celle qui concerne l'instabilité en cas de crise majeure entre les grandes puissances, Chine, États-Unis, Russie, etc. Et c'est là où le démantèlement du traité FNI comme début de processus, et je ne suis pas d'accord avec Benoît Pelopidas, je pense que c'est le début d'un processus majeur, ce serait trop rassurant, ce serait trop lénifiant de dire « Oh ben c'est le reflet de quelque chose qui se passe depuis 15 ans ou 20 ans ». Non, ce n'est pas le cas. Et on change d'univers. Et ça, c'est très grave et très inquiétant.
Benoît Pelopidas.
Alors moi, je vais juste nous ramener un petit peu à des résultats de recherche qui déterminent le cadre de notre conversation, parce que là, on est déjà dans le détail de la bataille d'experts stratégiques sur des détails de traités et de nombre d'armes. Donc, je voudrais rappeler trois choses qui sont établies par la recherche depuis un long moment. La première chose, quand même, c'est que le plan de modernisation l'épisode de modernisation auquel on assiste en ce moment et qui touche la totalité des États dotés d'armes nucléaires dans le monde, est un plan de modernisation qui s'étend sur plusieurs générations. C'est-à-dire la longueur de ce plan-là est surprenante dans sa longévité. On parle de projets de modernisation qui nous amènent jusqu'aux années 2060 à 2070. Mmh. Il faut d'abord mesurer cette échelle de temps-là. C'est-à-dire que nous, là, on est en train de discuter d'une tendance à court terme et de tendance en termes de la temporalité jusqu'en 2021. Mais on est dans un épisode et dans une séquence qui est une séquence de modernisation qui, je le répète, a commencé bien avant la fin du délitement de l'INF et qui va nous ramener jusqu'en 2060-2070. La deuxième chose, c'est qu'il y a une tendance de l'expertise stratégique à se focaliser sur le problème nucléaire comme un problème de prolifération. Or, le pari nucléaire est un pari de base sur la vulnérabilité. C'est-à-dire, la prolifération est une partie du problème. Mais penser que la prolifération est la totalité du problème, c'est dire que les armes des autres et les armes à venir sont le problème, pas les nôtres. Ce qui est quand même regrettable. Et il ne faudrait pas que vos auditeurs, tombent dans ce raccourci-là. Donc, le point central, si vous voulez, c'est que cette vulnérabilité, elle a un volet proliférant, mais elle a tout un tas d'autres volets en termes de sûreté et de sécurité nucléaire. Et le troisième postulat qu'on a tendance à accepter, parce que ça facilite la conversation, c'est qu'on a une conversation stratégique qui suppose donc une cohérence entre les discours des chefs d'État, les intentions, les plans et les arsenaux. Or, on sait par des travaux historiques, en français de Georges Le Gallt et bien d'autres à l'étranger, que cette cohérence entre les plans et les arsenaux ne correspond pas à la réalité historique et que en matière d'armement nucléaire, on n'est pas dans une logique où on pose les fins d'abord et où on adapte les moyens ensuite. De ce point de vue-là, je suis au moins d'accord avec les orateurs précédents sur le fait que la situation est inquiétante.
Un chiffre pour revenir sur le plan de modernisation, ça concerne la France. 37 milliards d'euros supplémentaires consacrés dans les années qui viennent à la modernisation de l'arsenal nucléaire. C'est 60% de plus que l'argent qui est consacré actuellement à cet arsenal. Tout ça, ça concerne la période 2019-2025. Antoine Bondaz, pour revenir sur ce que disait Benoît Pelopidas à la fin de son intervention, cette cohérence entre le discours et la réalité des arsenaux nucléaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des dirigeants et la plupart des États bluffent entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont entre les mains.
Je pense qu'on peut réconcilier ce que disaient François et Benoît Pelopidas. Il y a la question quantitative de la quantité d'armes, qu'elles soient déployées ou non, et cet arsenal-là se réduit. Et en parallèle, il y a une modernisation donc qualitative de ces arsenaux.
Pour être bien clair sur la quantité, ça veut qu'on ait 60 000 ogives nucléaires comme à la fin de la guerre froide ou 14 000 aujourd'hui, finalement on en a suffisamment pour faire exploser plusieurs fois la planète. Ça n'a pas de sens en fait.
Bien sûr.
Si je vous entends bien, c'est ça.
Alors, Il y a en tout cas une dynamique, entre guillemets, de réduction des arsenaux. Mmh. Après, il y a un vrai problème sur la question de la modernisation, la question de la finalité, évidemment, de ces armes. Mais à 14 000 têtes, évidemment, vous en avez, entre guillemets, beaucoup. Mmh. Alors, la question après qui se pose, c'est que comment on procède à ce désarmement nucléaire ou à la réduction progressive de ces arsenaux, tout en sachant que Russie et États-Unis représentent plus de 95% des arsenaux, qu'ensuite la Chine, la France, le Royaume-Uni, entre guillemets, auraient à peu près voilà 300 têtes, les autres pays en ayant moins. Et ensuite, donc il y a la réduction quantitative, et puis ensuite il y a quelle est la procédure, quel est le processus pour parvenir à ce désarmement nucléaire. Il faut le rappeler que les signataires de ce qu'on appelle le traité de non-prolifération se sont engagés à poursuivre ce désarmement nucléaire. Et là, il peut y avoir des oppositions sur les processus. Est-ce qu'il faut, par exemple, un traité qui interdirait les armes nucléaires et le problème serait résolu, ou alors une approche peut-être plus progressive avec plusieurs traités, un traité par exemple d'interdiction complète des essais qu'on appelle le TIS, qui a été négocié dans les années 90, qui n'est pas en vigueur aujourd'hui puisque certains pays ne l'ont pas ratifié, des pays qui sont extrêmement importants, notamment les États-Unis, puis d'autres traités comme par exemple le traité d'interdiction d'enrichissement de la matière fissile et autres qui permettraient de façon idéale un désarmement progressif et pragmatique.
Avant, on va revenir sur cette question des nombreux traités, de ce millefeuille de traités. Et avant de donner la parole à Jean-Marie Collin, François Hesbourg, est-ce que vous pourriez juste nous expliquer, parce qu'on parlait de modernisation de l'arsenal nucléaire, en quoi c'est important, en quoi elle est importante cette modernisation et qu'est-ce que ça représente?
D'abord, la modernisation veut dire qu'il y a pérennisation des arsenaux nucléaires. On n'est pas dans une logique de désarmement lorsqu'on modernise, hein, par définition. Et là, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Mais il y a modernisation et modernisation. Une modernisation qui s'effectue dans une logique, d'une part, de réduction des arsenaux, et d'autre part, dans le cadre de traités qui améliorent la transparence et la connaissance des capacités et des intentions de chacun, c'est une chose. Et grosso modo, c'est ce qu'on avait jusqu'à présent, du moins entre les États-Unis et la Russie, qui, encore une fois, c'est 95% du problème. Et avec la fin des grands traités, FNI d'abord, et je crains le traité New Start, en 2021, et là, on sera dans la modernisation sauvage, et une modernisation où il n'y aura pas de connaissances partagées, pas de confiance mutuelle, et surtout, un effacement de la distinction, d'une distinction claire, entre ce qui appartient au nucléaire et ce qui n'appartient pas au nucléaire. Jusqu'à présent, en Europe, on pouvait partir du principe que tout missile à portée intermédiaire basé à terre avait une charge non nucléaire. En termes de gestion de crise, c'est important de savoir ça. Ben, à partir du 2 août, nous devons partir du principe que tout missile à portée intermédiaire basé sur le territoire européen, voilà, le principe de prudence, de précaution, suppose qu'il faille le considérer comme étant possiblement à charge nucléaire. Et ça change l'univers des décideurs, ça change la façon dont se déroulent les crises.
Jean-Marie Collin.
Oui, et je dirais même, on parle notamment en France, non seulement de modernisation, qui est donc bien cette pérennisation exprimée par M. Hesbourg, mais aussi de renouvellement. Et c'est là que ça pose véritablement un problème, c'est que on voit bien qu'il n'y a aucune volonté, en fait, véritablement de travailler à un processus qui, certes, sera long, qui va prendre du temps, qui est compliqué, ça on le sait, pour aller véritablement au désarmement nucléaire. Comme l'a dit Benoît Bellopidas, la France, mais les autres puissances nucléaires, sont engagées dans ces programmes de modernisation et de renouvellement qui s'étalent sur plusieurs générations. Et le fait d'exprimer cette volonté d'étaler sur plusieurs générations, de conserver ces arsenaux nucléaires, donc de conserver cette politique de dissuasion nucléaire, montre bien que de toute façon, ces États, entre eux, n'ont pas confiance et ne souhaitent pas aller au désarmement nucléaire. Même s'il existe différents outils, comme le TIS, comme a mentionné Antoine Bondaz, qui est un traité pour interdire les essais, complètement les essais nucléaires, qui est extrêmement intéressant et important, on voit bien que de toute façon, cela n'avance pas assez vite face à cette problématique internationale, face à cet nouvel environnement international qui est totalement nouveau par rapport à ce que l'on a pu connaître par le passé.
On va revenir sur la dissuasion, vous l'avez évoqué, Jean-Marie Collin. Je voudrais revenir d'abord avec vous, Benoît Pelopida, sur ce qu'a dit il y a quelques instants François Hesbourg, sur le changement stratégique qu'implique le retrait américain du traité FNI et donc la mort de ce traité. Pas de course, pas de nouvelle course aux armements, ça on l'a bien compris, mais une modernisation. Et puis donc, le fait maintenant de pouvoir avoir sur le sol européen notamment, des missiles avec possiblement donc des ogives nucléaires. Ça change tout.
Alors, je vais répondre à ça de trois façons. D'abord, il faut se souvenir que ce qu'on mesure quand on dit modernisation, pas modernisation, course aux armements, pas course aux armements, en général, c'est le nombre de têtes. Si on mesure la létalité agrégée, ou si on mesure le mégatonnage des différentes armes, on a des cycles et des interprétations de ce qui se passe qui sont très très différents. Donc moi je veux pas entrer dans cette conversation là parce que chacun va pouvoir justifier une tendance ou une autre en fonction de l'instrument de mesure qu'on choisit. Et ça d'ailleurs c'est un travail qui va être publié bientôt si ça intéresse vos auditeurs. Mais moi je voudrais encore une fois décaler un petit peu la conversation parce que on parle de processus qui nous conduisent sur 50, 60, 70 ans et enfin jusqu'à nouvel ordre. Moi on m'a toujours dit que j'étais citoyen d'une démocratie et donc ce qui est intéressant c'est que les citoyens sont très peu informés et très peu consultés sur ces questions-là. Et donc moi en tant que chercheur, le travail que j'ai fait c'est que avec mon équipe du programme Nuclear Knowledges, on a travaillé sur quel est l'état des connaissances des citoyens et des résidents français sur ces questions. Parce que finalement, ça va être eux qui vont porter pas seulement le fardeau fiscal, mais aussi qui vont être la caution politique, potentiellement le soutien, potentiellement la cible. Et donc, quand on fait cette recherche-là, dont quand même j'insiste sur le fait qu'il est surprenant qu'elle n'ait pas été faite par une entité indépendante avant qu'on le fasse en juillet 2018 avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche, on trouve deux choses assez troublantes. C'est-à-dire c'est un autre pan du trouble, si vous voulez. Monsieur Hesbourg, vous parlez du trouble des décideurs. Moi, je vous parle du trouble des citoyens et sans doute aussi des élus parmi eux. Ces deux troubles sont les suivants. C'est-à-dire le biais de la prolifération, c'est-à-dire l'obsession des experts sur la prolifération, comme il coïncide avec le discours officiel, et j'ai montré dans un chapitre qui a paru récemment à quel point le problème du discours français sur le nucléaire, c'est que les experts reprennent à leur compte les catégories des décideurs, de sorte que, en fait, l'évaluation de la politique menée n'est plus possible. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, l'expert qui reprend la catégorie de l'officiel transmet à l'opinion publique ces catégories-là. Comment ça se traduit dans l'opinion publique? Eh bien, quand vous demandez aux citoyens, donc ils ont de 18 à 50 ans nos sondés, hein, c'est un échantillon représentatif, je peux vous dire le détail si ça vous intéresse, quels sont les États dotés d'armes nucléaires? Eh bien, 36% d'entre eux, 36% mentionnent l'Iran. Enfin, je vais vous le raconter comme ça. 68% mentionnent la Corée du Nord. Donc vous voyez les deux crises de prolifération. Est-ce qu'ils mentionnent la France? Ben, il y a 31% des sondés qui ne mentionnent pas la France, c'est-à-dire le pays dans lequel ils résident. Et on est des chercheurs sérieux, donc c'est pas un effet, c'est pas un artefact. Ça se vérifie à travers les différentes questions. Donc le biais est proliférant et traduit de l'expert vers l'opinion publique. De la même manière, on trouve un manque assez criant de connaissances sur l'historique des essais nucléaires, parce que c'est pas une conversation que les experts ont en France, et de la même manière, les connaissances sur les effets, et en particulier les effets de radiation d'une explosion nucléaire, sont rarement connus en France par rapport à l'idéal qu'on a en tête, mais aussi par rapport à leurs homologues européens. C'est ça quand même qu'il faut avoir en tête.
Pour la suite et la fin de l'émission, je vais juste vous demander de faire des réponses un tout petit peu plus courtes, s'il vous plaît, Benoît Pelopidas. On a bien compris ce que vous vouliez dire donc sur l'impact de ces politiques nucléaires sur la population qui semble être quand même assez marquée par ce qui se passe plus dans les médias que véritablement en France. Je vais donner la parole à Antoine Bondaz dans quelques instants, mais avant la réaction de François Hesbourg, puisque vous l'aviez interpellé.
Oui, et le mérite de France Culture, c'est d'avoir fait une émission qui précisément ne portait pas sur la prolifération des armes nucléaires. Alors, depuis 20 minutes, j'entends M. Pelopidas qui nous explique que c'est un grand tort de centrer le débat sur la prolifération nucléaire. Alors, ce serait bien un petit peu que M. Pelopidas s'exprime, par exemple, sur les conséquences de la fin du traité FNI, sur la fin de START, sur les problèmes que pose l'instabilité stratégique qui résultera de la fin de ces traités, la diffusion, alors non pas la prolifération régionale, mais la diffusion de nouvelles technologies, pas forcément nucléaires, mais qui peuvent avoir une dimension nucléaire, comme l'hypervélocité, bravo France Culture, mais je suis un tout petit peu troublé que nous passions notre temps à taper sur un homme de paille qui n'était pas invité à cette émission. Et quant au trouble des décideurs, l'une des caractéristiques du nucléaire, des caractéristiques atroces du nucléaire, parce que le nucléaire est atroce. Le nucléaire est fait pour tuer massivement, totalement, des millions de personnes. Mais c'est qu'il y a un décideur. Et le trouble du décideur, il est, tant qu'il y aura des armes nucléaires, absolument crucial et vital. C'est peut-être très très embêtant et que 31% des Français paraissent ignorer que la France soit une puissance nucléaire. Mais c'est peut-être moins important que de savoir ce que ferait M. Poutine, savoir ce que ferait M. Macron, de ce que ferait M. Trump en cas de crise majeure pouvant impliquer une escalade nucléaire. Mmh. Donc le trouble des décideurs mérite qu'on s'y attarde un tout petit peu.
Antoine Mondaz.
La question des conséquences du traité, du retrait du traité FNI ou de la fin potentielle du traité New Start, elle a aussi des conséquences si on décentre un peu des questions européennes en Asie. C'est un sujet que je suis principalement. Et là, les conséquences sont assez intéressantes et importantes. La volonté américaine notamment, c'est de chercher à trilatéraliser aujourd'hui, à multilatéraliser, mais surtout à trilatéraliser.
Avec la Chine, si je vous entends bien.
Exactement, ces accords. Et la trilatéralisation, évidemment, concernerait la Chine. Aujourd'hui, la Chine a une politique claire, c'est qu'elle refuse cette trilatéralisation. Le livre blanc sur la défense nationale chinoise a été publié il y a quelques jours, mercredi dernier. Ce rappel est implicite, il est beaucoup plus explicite dans les conférences de presse des différents ministères chinois. Et les conséquences, encore une fois, en Asie seront importantes. La Chine également participe à la modernisation de ses forces nucléaires. Et c'est des sujets qui, sur le plan international, méritent aussi qu'on s'y intéresse.
Mmh. Je voudrais qu'on revienne sur la dissuasion. Vous l'avez évoqué déjà, effleuré. Est-ce que la décision américaine change cette doctrine, Jean-Marie Collin ?
Non, pour l'instant, cette décision ne change pas la doctrine des États-Unis. Les États-Unis restent sur la doctrine qu'ils ont depuis quelques années, qui a été initiée par Obama. Mais cela pose bien une problématique, c'est que effectivement, il va y avoir potentiellement peut-être plus de missiles du côté de la Russie. Potentiellement, peut-être que les États-Unis, et c'est certainement le cas de l'OTAN, vont réfléchir à des mesures de défense vis-à-vis de ces futurs missiles. Donc ça veut dire que l'OTAN va prendre une position beaucoup plus forte en termes de défense, potentiellement plus active, potentiellement peut-être plus agressive aussi. Et c'est là tout le véritable danger, en fait, c'est jusqu'à quand, en fait, on risque d'avoir cette escalade qui peut aboutir à, non pas peut-être une volonté de guerre, mais à un accident, et c'est sans doute ce que tout le monde redoute le plus, un accident militaire qui engage à ce moment-là un scénario de guerre sur lequel on ne peut plus arrêter, on ne peut plus revenir en arrière. On a eu un certain nombre de cas dans les années de la guerre froide qui ont existé, sur lesquels on a eu de la chance. Et donc l'une des grandes questions, en fait, sur lesquelles de nombreux États s'interrogent, c'est pendant combien de temps on a encore de la chance pour éviter un affrontement militaire, que celui-ci soit fait de façon volontaire ou involontaire. Puisque ce sont bien les armes nucléaires qui posent un problème de sécurité mondiale. Donc il serait véritablement temps d'engager de bonne foi, comme c'est indiqué normalement dans le traité de non-prolifération nucléaire, un véritable action, un véritable processus pour travailler sur ce désarmement nucléaire, et non pas par petites touches, sachant que, voilà, aujourd'hui, tous ces États sont dans ces fameux programmes de modernisation.
C'est intéressant ce que vous dites, Jean-Marie Collin, et on l'a encore effleuré depuis le début de l'émission, mais concrètement, effectivement, la décision américaine va installer ou risque d'installer des missiles avec des ogives nucléaires sur le sol européen, François Hesbourg, rapidement.
Oui,
je donnais un exemple pratique. Le missile que les Russes avaient commencé à tester, même un début de déploiement, en sortant d'après l'OTAN des accords, hein, FNI, puisque c'était considéré comme une violation. Et ces missiles, c'est essentiellement une version, le cas échéant nucléaire, mais terrestre, des fameux missiles Calibre, missiles de croisière, dont les Russes se sont beaucoup servis, notamment en Syrie. Mais évidemment, en Syrie, ils se sont servis de façon conventionnelle. C'était peut-être pas très agréable ni très joli, mais il n'y avait pas d'ambiguïté sur ce que faisait la Russie en Syrie. Ce n'était pas nucléaire. Dorénavant, il va falloir considérer tout calibre, tout missile de ce type, dès lors qu'il sera basé à terre, comme étant à charge nucléaire. Ça change la façon dont vous allez gérer une crise. Et les Russes devront faire le même calcul lorsque les États-Unis convaincront sans difficulté les Polonais ou les Baltes d'accueillir des missiles sol-sol terrestres. Et c'est là où je rejoins ce qu'a dit M. Collin. La dissuasion, on a eu beaucoup de chance pendant la guerre froide. Je suis un homme de la guerre froide, je l'ai vécu. Et on a eu beaucoup de chance. Là, on est en train de faire en sorte...
De recréer les conditions.
On est en train de recréer des conditions d'avant les accords. Une plus grande instabilité, de plus grands risques. Et donc, la justification basique qui est invoquée à l'appui des armes nucléaires, qu'est la dissuasion, se trouvera affaiblie.
Se dirige-t-on vers un réarmement nucléaire général? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir sur France Culture. Quatre invités pour en discuter. Vous venez de l'entendre, François Hesbourg, conseiller spécial du président de la FRS, Antoine Bondaz, chercheur à la FRS également, Benoît Pelopilas, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires, et Jean-Marie Collin, porte-parole de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. Continuons à parler des conséquences de ce retrait américain du FMI, du FNI, du traité FNI. Conséquences, parmi les conséquences, il y a la réaction des Russes, à commencer par celle de Vladimir Poutine, le président russe qui a donné sa vision assez sombre, vous allez l'entendre, de la situation actuelle. C'était en juin dernier. Il mettait alors en cause l'ensemble des parties prenantes, donc l'ensemble des parties de ces pays nucléaires.
Tout le monde fait semblant d'être sourd, aveugle ou dyslexique. Nous devons réagir à cela d'une manière ou d'une autre. Nous devons clairement réagir. Le renouvellement du traité START 3 est à notre ordre du jour. Cependant, nous pouvons choisir de ne pas le faire. Si personne ne souhaite renouveler ce traité, cela ne sera pas fait. Nous avons déjà dit 100 fois que nous sommes prêts à le faire, mais personne ne veut en parler avec nous. Je vous signale qu'il n'y a pas de processus de négociation formel et que tout expirera en 2021. Ayez bien conscience de ce que cela signifie. Il n'y aura plus d'instruments pour limiter la course aux armements, ni même, par exemple, pour déployer des armes dans l'espace. Savez-vous ce que cela signifie? Posez donc la question aux experts. Cela signifie que chacun de nous devra vivre à tout moment, par exemple, avec une arme nucléaire au-dessus de lui, en permanence. Mais les choses vont dans ce sens, et très rapidement. Est-ce que quelqu'un va y réfléchir, en parler, ou montrer une quelconque préoccupation? Non, c'est le silence complet.
Voilà, le silence complet, dit Vladimir Poutine. Est-ce que c'est juste ce qu'il dit, le président russe? Personne ne se parle véritablement, Benoît Pelopinas?
Alors, je voudrais revenir sur deux choses importantes. D'abord, on peut avoir une conversation stratégique sur où sont les armes, quels sont les risques de crise. Et ce que la recherche fait, qui est important, c'est pas de commenter qui parle à qui. Encore une fois, moi, je vous parle comme chercheur, je prétends pas avoir l'oreille de qui que ce soit.
Vous faites référence à ce que disiez tout à l'heure, François Hesbourg.
Oui, non, mais si vous voulez, il s'agit pas de faire référence. Je trouve touchant, d'ailleurs, que on se dise que, alors que ça fait 70 ans qu'on étudie les décideurs et la matérialité, et que pour une fois, il y a une recherche qui est primée dans plusieurs pays qui s'intéresse aux citoyens, on trouve que c'est une perte de temps d'en parler aux auditeurs. Je trouve ça surprenant. Par ailleurs, sur la prolifération, j'invite qui que ce soit qui s'imagine que je crée un homme de paille à lire encore une fois les publications primées par le programme.
On le fera.
Et par ailleurs, sur la question du trouble des décideurs, la question sur laquelle on peut tomber tous d'accord, je pense, c'est la question de la chance, précisément. Et le but
intellectuellement parlante, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet une fois qu'on s'est dit tous on a eu de la chance. Et régulièrement on se dit mais finalement la chance est insaisissable. Et en fait, l'objet du programme de recherche qu'on conduit, c'est vraiment de dire, il y a des cas où on a évité les accidents, non pas par des processus de contrôle, mais par leur échec. Donc on peut apprendre de ces échecs. Ça, c'est un élément sur lequel je voulais insister.
Ce que vous voulez dire, finalement, c'est que, dans certains cas, les traités ne servent à rien ?
Pas les traités. Les procédures qui... Parce que, si vous voulez, on a deux conversations en parallèle. On a une conversation sur les traités. Et là, récemment, la conversation s'est focalisée sur les situations de crise, sur quelle va être la condition du décideur en situation de crise. Et là, ce que je vous dis, c'est que, encore une fois, si on limite, comme on a trop tendance à le faire, et comme apparemment un de vos invités voulait que je le fasse, à limiter tout à la conversation stratégique, eh bien, on se dit que si on évite l'accident, si on évite l'escalade par inadvertance, c'est parce que les procédures adaptées ont été suivies.
Bon, on a bien compris
dans
ce que
certains... vous voyez.
Oui, on a bien compris ce que vous voulez dire. Benoît Pélopidas, François Hesbourg vous répond rapidement, puis j'aimerais bien qu'on revienne aussi à ce que vient de dire Vladimir Poutine, puisque ça fait partie du cœur de notre émission.
Après, cette revue infligeait une leçon sur le thème qu'il ne fallait pas parler de la prolifération. Maintenant, on se voit infliger encore une autre leçon. Mais sérieusement, à votre question... Est-ce que personne ne se parle? Et M. Bolton, conseiller national de sécurité des États-Unis, effectivement, ne parle aujourd'hui à personne. Et il n'est pas partisan de renouer la discussion sur l'extension du traité START 3, New START. Et la seule discussion qui a lieu paradoxalement, celle qu'Antoine Bondaz connaît par cœur, c'est la discussion entre le président Trump et le président Kim Jong-un de Corée du Nord. Mais pour le reste, effectivement, on est au point mort. Les Chinois ont envoyé une lettre magnifique aux Américains lorsque les Américains ont dit il faut qu'on parle tous ensemble du nucléaire. Les Chinois ont dit faites d'abord le ménage avec les Russes. C'est vous qui représentez 95% des ogives nucléaires. On est effectivement dans une situation qui me rappelle à certains égards les années 50. Même pas les années 60. Et Poutine est un pyromane qui est aussi un très bon analyste. Son analyse est parfaite. Il ajoute tout simplement du feu à l'affaire en déployant des nouveaux missiles, hypervéloces, le Kinjal, l'Avant-Garde, le Sarmat et le Poseidon et ainsi de suite. Mais sur le fond, Poutine a raison. Il dit le vrai.
Jean-Marie Collin.
Oui. Pour revenir sur la question nucléaire, cela signifie bien qu'on va être menacé de plus en plus, même si nous le sommes déjà, par ces 14 000 armes nucléaires, par des armes nucléaires. Et il est donc temps de travailler sur cette problématique véritablement et d'arrêter de tourner un peu autour du pot. Si effectivement la Chine dit aux États-Unis qu'ils fassent le ménage en premier parce qu'ils ont les plus gros arsenaux avec la Russie, la France et les Britanniques disent exactement la même chose. Ils se parlent bien autour de conférences diplomatiques, ils sont actuellement réunis à Genève pour discuter dans le cadre de questions de désarmement, mais ce n'est pas du dialogue en fait, c'est simplement chacun lit son propre discours. Alors même si on peut, et de nombreux acteurs, notamment en France, trouvent que le traité d'interdiction des armes nucléaires, donc c'est un nouveau traité qui est né en 2017, a été mis en place, pourrait être faible selon certains, ce qui n'est pas mon cas, il a la capacité justement de ramener tout le monde à la table des négociations et de travailler ensemble, puisque c'est bien ça le but, c'est ensemble de faire face à cette menace internationale qui est présente depuis 1945.
Rapidement, Antoine Bonda, cette coopération, ce dialogue, est-ce qu'il existe réellement encore et est-ce qu'il pourrait reprendre, en tout cas se développer dans les années qui viennent?
Vu le contexte stratégique et les décisions politiques récentes, je pense qu'on peut être assez pessimiste sur la reprise de grandes négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire, etc. Ce qui est important aussi, c'est de se décentrer de l'Europe et de voir l'opinion publique dans d'autres pays. Si vous allez, par exemple, en Chine, la question nucléaire n'est pas une question, en réalité. Le nucléaire, c'est un symbole de l'indépendance de la Chine. C'est le symbole que la Chine, dès 1964, le premier essai nucléaire, a été capable de tenir tête à l'Union soviétique et aux États-Unis. C'est aujourd'hui de plus en plus utilisé dans le discours politique pas les armes nucléaires en elles-mêmes, mais le nucléaire militaire comme vraiment une prouesse technologique et scientifique de la Chine. Et vous avez, par exemple, depuis 2-3 ans, la mise en avant des scientifiques chinois qui, dès les années 50, les années 60, ont participé à ce qu'on appelait le programme 2 bombes et 1 satellite, c'est-à-dire le premier programme nucléaire et balistique chinois. La question peut se poser dans d'autres pays. Vous allez en Corée du Nord aujourd'hui, l'arme nucléaire, elle est utilisée pour des raisons militaires, mais aussi pour des raisons politique. C'est un instrument de légitimation du régime, c'est un instrument qui permet de matérialiser l'indépendance du régime, et ça, il faut en avoir également conscience. Alors, après, il y a le travail des diplomates, et il faut évidemment avancer sur la question du désarmement nucléaire, puisque, encore une fois, c'est l'engagement compris, les 5 puissances nucléaires dotées et reconnues dans le cadre du traité non-prolifération dont on a fêté l'année dernière les 50 ans.
Bon, on l'a bien compris à vous entendre, messieurs, depuis le début de cette émission. Nous sommes dans une nouvelle période d'incertitude, d'instabilité aussi avec ce retrait américain. Comment en sortir, Benoît Pelopilas, de cette période d'incertitude, compte tenu aussi de ce que vous avez dit et des éléments que vous avez apportés à la discussion? Je repense à ce que vous aviez dit il y a quelques instants sur les procédures nucléaires.
Alors, je vous remercie de me donner l'occasion d'amener quelques bonnes nouvelles, peut-être. Alors, ces bonnes nouvelles, c'est que si on regarde les événements décisifs de l'âge nucléaire, en un sens, c'est notre faiblesse en tant qu'observateur qui peut être porteuse de bonnes nouvelles. En d'autres termes, de nombreux événements décisifs de l'âge nucléaire étaient imprévus et parfois sans précédent. Et c'était parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Je vous donne quelques exemples. L'essai nucléaire chinois de 1964, qui modifie complètement le regard des services de renseignement américains sur la question de la prolifération et la question de déséquilibre stratégique. Le désarmement complet de l'Afrique du Sud, l'effondrement évidemment de l'Union soviétique. Le fait que la taille des arsenaux depuis 1986 a diminué de 2/3. Ces trois réalités qui sont fondamentales dans la façon dont le monde nucléaire s'est construit, on les a soit mal anticipées, soit on n'en a pas compris les causes. Ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant qu'observateurs, évidemment, on a un désir de connaître l'avenir. Mais en fait, il faut juste accepter que notre discours sur l'avenir n'est pas le reflet de ce que l'avenir va être, mais c'est simplement le reflet de trois tendances qu'on connaît et qui sont documentées par la recherche chez l'expertise. La première tendance, c'est...
Rapidement, s'il vous plaît, il nous reste une minute.
Oui, c'est le présentisme des experts. C'est-à-dire, on survalorise la situation dans laquelle on est. Ensuite, on oublie les surprises qui étaient des bonnes nouvelles dans le passé. Et troisièmement, si on dit que tout ça est inévitable, ça permet de légitimer les décisions qui ont déjà été prises comme des nécessités. J'ai terminé.
Jean-Marie Collin.
Comment travailler au dialogue? C'est une question sur laquelle je pense tous les diplomates essaient de faire, en tout cas tous ceux qui ont une véritable volonté d'y travailler.
Qu'il faut de nouvelles normes, de nouveaux traités?
Oui, cette nouvelle norme, le TIAN, justement, est un moyen de travailler à ce nouveau dialogue.
Le TIAN, c'est le traité d'interdiction des armes nucléaires.
Exactement. Ce que l'on peut voir, étonnamment ou bizarrement, c'est que justement, toutes les puissances nucléaires ont décidé de refuser de dialoguer. Ce qui montre bien que finalement, avant même de vouloir engager un désarmement, ces États ne veulent pas véritablement travailler au désarmement. Donc ça, c'est la première question et c'est la première chose à lever, sans doute.
François Hesbourg, rapidement, il nous reste quelques secondes. Comment sortir de cette période d'incertitude?
Il va falloir s'habituer à vivre dangereusement. On n'en sortira pas rapidement. Et tout simplement, et c'est un fait malheureux, il n'y aura pas de dénucléarisation sans que les 9 puissances nucléaires le veuillent. Ce sont les 9 puissances nucléaires qu'il faut convaincre d'y procéder. Et tous les autres peuvent signer tous les traités d'interdiction qu'ils veulent, s'ils ne convainquent pas les 9, il ne se passera rien. C'est la triste réalité.
Merci à tous les 4, merci pour cette discussion animée, mais riche et intéressante. François Hesbourg et Antoine Bondaz de la Fondation pour la Recherche Stratégique, Jean-Marie Collin, chercheur associé auprès du GRIP, et Benoît Pelopilas, titulaire de la chaire d'excellence en études de sécurité à Sciences Po. Merci d'ailleurs à nos amis de France Bleu Champagne-Ardenne pour la réalisation du duplex. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Margot Loridon, Aliette Ovine, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation ce soir, Léa Racine et Alexandre Fougeron. Mise en onde, Jacques Hubert.